Question. Oui, dans le tome 1. Réponse. Parmi ces pensées que partagent un grand nombre d'entre vous, il y a votre idée d'insuffisance. Beaucoup d'entre vous croient au plus profond de leur être qu'il y a un manque de tout. Un manque d'amour, d'argent, de nourriture, un manque de vêtements, de logements, un manque de temps, de bonnes idées en circulation et certainement un manque de vous. Certaines pensées racines vous poussent à utiliser toutes sortes de stratégies et de tactiques pour chercher à acquérir ce qui, selon vous, manque. Ce sont des approches que vous abandonneriez immédiatement si vous saviez clairement qu'il y a assez pour chacun de tout ce que vous désirez. Dans ce que vous appelez le ciel, vos idées de manque disparaissent, car vous devenez conscient du fait qu'il n'y a aucune séparation entre vous et ce que vous désirez. Vous avez conscience qu'une quantité plus que suffisante de vous s'y trouve. Vous avez conscience du fait que vous pouvez être à plus d'un endroit à n'importe quel moment donné. Il n'y a donc aucune raison de ne pas vouloir ce que veut votre frère, de ne pas choisir ce que choisit votre sœur. S'ils vous veulent dans leur espace au moment de leur mort, le seul fait qu'ils pensent à vous vous appelle vers eux. Et vous n'avez aucune raison de ne pas courir vers eux, puisque le fait d'y aller n'enlève en rien à tout ce que vous pouvez être en train de faire. Cet état, celui de n'avoir aucune raison de dire non, c'est celui dans lequel je réside à tout moment. Tu l'as déjà entendu dire, et c'est vrai, Dieu ne dit jamais non. Je te donnerai exactement tout ce que tu désires, toujours, tout comme je le fais depuis le début des temps. Question. Donnes-tu vraiment toujours à chacun exactement ce qu'il désire à n'importe quel moment donné? Réponse. Oui, mon bien-aimé, c'est bien ce que je fais. Ta vie est un reflet de ce que tu désires et de ce que tu crois pouvoir obtenir de ce que tu désires. Je ne peux te donner ce que tu ne crois pas pouvoir recevoir, peu importe à quel point tu le désires. Car je ne dérogerai pas de l'idée que tu t'en fais. Je ne peux pas, c'est la loi cosmique. Croire qu'on ne peut avoir quelque chose, c'est comme ne pas la désirer, car cela produit le même résultat. Question. Mais sur Terre, nous ne pouvons avoir tout ce que nous désirons. Nous ne pouvons nous trouver à deux endroits en même temps, par exemple. Il y a bien d'autres choses que nous pouvons désirer sans pouvoir les obtenir puisque, sur la Terre, nous sommes tous limités. Réponse. Je sais que tu vois les choses ainsi et que, par conséquent, cela se passe ainsi pour vous. Car une chose demeure éternellement vraie. Vous recevez toujours l'expérience que vous croyez devoir recevoir. Ainsi, si vous dites que vous ne pouvez vous trouver à deux endroits en même temps, vous ne pourrez y être. Mais si vous affirmez que vous pouvez être partout où vous le voulez, à la vitesse de votre pensée, et que vous pouvez même vous manifester sous la forme physique, à plus d'un endroit à n'importe quel moment donné, alors vous pourrez le faire. Question. Là, je ne te suis plus. Je veux bien croire que cette information provient directement de Dieu, mais quand tu tiens des propos semblables, ça m'énerve, parce que je ne peux pas y adhérer. Je ne pense pas que ce que tu viens de dire soit vrai. Rien dans l'expérience humaine ne l'a démontré. Réponse. Au contraire. Des saints et des sages de toutes les religions ont déclaré avoir fait ces choses. Faut-il avoir un degré de foi très élevé, un degré de foi extraordinaire, le degré de foi atteint par un seul être en un millier d'années? Oui. Cela veut-il dire que c'est impossible? Non. Question. Comment puis-je atteindre ce degré de foi? Réponse. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux qu'y être. Et je n'essaie pas de jouer sur les mots. C'est exactement ce que je veux dire. Ce genre de foi, que j'appellerais connaissance complète, n'est pas quelque chose qu'on essaie d'acquérir. En fait, si tu tentes de l'acquérir, tu ne peux pas l'avoir. C'est quelque chose qu'on est, tout simplement. Tu es tout simplement cette connaissance. Tu es cet être. Un tel état d'être provient d'un état de conscience totale. Il ne peut provenir que d'un tel état. Si tu cherches à devenir conscient, tu ne peux l'être. C'est comme essayer de faire 1m85 alors que tu mesures 1m60. Tu feras 1m85 quand tu deviendras assez grand pour l'accepter. Quand tu seras d'1m85, tu seras alors capable de faire tout ce que peuvent faire les gens d'1m85. Et quand tu seras dans un état de conscience totale, tu seras à même de faire tout ce que peuvent faire les êtres dans un état de conscience totale. Il est donc inutile d'essayer de croire que tu peux faire ces choses. essaie plutôt de passer à un état de conscience totale. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de croire. La connaissance complète accomplira ses merveilles. Question. Un jour, alors que je méditais, j'ai fait l'expérience de l'unité totale, de la conscience totale. C'était merveilleux. C'était l'extase. Depuis ce jour, je tente de revivre cette expérience. Je m'assois en position de méditation et j'essaie de retrouver cette conscience totale. Mais je n'en ai jamais été capable. Voilà la raison, n'est-ce pas ? Tant que je chercherai à obtenir une chose, je ne pourrai l'avoir, puisque le seul fait de la chercher, c'est affirmer que je ne l'ai pas. C'est la sagesse que tu m'as transmise tout au long de ce dialogue. Réponse. Oui, oui, maintenant tu comprends. Cela devient plus clair pour toi. C'est pourquoi nous continuons de tourner en rond, de répéter des choses et de revoir des choses. Tu saisis la troisième fois, la quatrième, peut-être la cinquième. Question. Bon, je suis heureux d'avoir posé la question car ça peut être dangereux, cette histoire de pouvoir être à deux endroits en même temps ou de pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est le genre de choses qui pousse des gens à sauter du haut de l'Empire State Building en criant « Je suis Dieu, regardez-moi, je peux voler !» Réponse. Avant de faire cela, mieux vaut se trouver dans un état de conscience totale. Si tu essaies de prouver que tu es Dieu en faisant la démonstration aux autres, alors tu ne sais pas que tu l'es, et cette inconnaissance s'exprimera dans ta réalité. Bref, tu tomberas de haut. Dieu ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, car Dieu n'a pas besoin de le faire. Dieu est, et c'est ce qui est. Ceux qui savent qu'ils sont en union avec Dieu, ou qui font l'expérience intérieure de Dieu, n'ont pas besoin et n'essaient pas de le prouver à qui que ce soit, surtout pas à eux-mêmes. Et ainsi, lorsqu'ils le tentèrent en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix », l'homme appelé Jésus n'en fit rien. Mais 3 jours plus tard, calmement et discrètement, alors qu'il n'y avait ni témoin, ni foule, ni personne à qui prouver quoi que ce soit, il fit une chose beaucoup plus étonnante. Et depuis lors, le monde en parle. Et dans ce miracle se trouve ton salut, car on t'a montré la vérité, non seulement celle de Jésus, mais celle de qui tu es. Et tu pourrais ainsi être sauvé du mensonge qu'on t'a raconté à propos de toi-même et que tu as pris pour ta vérité. Dieu t'invite, toujours, à l'idée la plus élevée que tu te fais de toi-même. Présentement, sur votre planète, des gens ont manifesté déjà un grand nombre de ces pensées élevées. Entre autres, ils ont fait apparaître et disparaître des objets matériels. Eux-mêmes sont apparus et disparus. Ils ont même vécu à jamais dans le corps ou sont revenus au corps pour revivre. Et tout cela a été rendu possible par leur foi, par leur connaissance, par leur immuable clarté quant à la nature et au sens des choses. Par le passé, chaque fois que des gens ont fait cela sous leur forme terrestre, vous avez appelé ces événements des miracles et avez fait de ces gens des saints et des sauveurs. Pourtant, ils ne sont pas plus saints ni plus sauveurs que vous, car vous êtes tous des saints et des sauveurs, et c'est le message même qu'ils vous ont apporté. Question. Comment puis-je croire cela ? Je veux croire cela de tout mon cœur, mais je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Réponse. En réalité, tu ne peux pas le croire. Tu ne peux que le savoir. Question. Comment puis-je le savoir ? Comment puis-je en arriver là ? Réponse. Tout ce que tu choisis pour toi-même, donne-le à un autre. Si tu ne peux en arriver là, aide quelqu'un d'autre à en arriver là. Dis à quelqu'un d'autre qu'il y est déjà. Louange-le pour cela. Honore-le pour cela. Voilà l'avantage d'avoir un gourou. Tout est là. En Occident, on a accolé beaucoup d'énergie négative au mot « gourou ». Il est quasiment devenu péjoratif. Être un gourou, c'est être un charlatan, ou presque. Prêter allégeance à un gourou, c'est comme céder ton pouvoir. Honorer ton gourou, ce n'est pas céder ton pouvoir. C'est recevoir ton pouvoir. Car lorsque tu honores le gourou, lorsque tu loues ton maître, ce que tu lui dis c'est « je te vois ». Et ce que tu vois chez un autre, tu peux commencer à le voir en toi-même. C'est la preuve extérieure de ta réalité intérieure, de ta vérité intérieure, celle de ton être. C'est la vérité transmise par toi dans les livres que tu écris. Question. Je ne considère pas que j'écris ces livres. C'est toi, Dieu, que je considère comme leur auteur, et je n'en suis que le scribe. Réponse. Dieu en est l'auteur, et toi aussi. Il n'y a aucune différence entre le fait que je les écrive et le fait que tu les écrives. Tant que tu penseras le contraire, tu n'auras pas saisi le message, même dans ses écrits. Mais la plus grande partie de l'humanité n'a pas saisi cet enseignement. Ainsi, je vous envoie de nouveaux maîtres, d'autres maîtres, tous avec le même message que les maîtres d'antan. Je comprends ta résistance à accepter l'enseignement comme étant ta propre vérité. Si tu te promenais en prétendant oralement ou par écrit ne faire qu'un avec Dieu, ou même avec une part de Dieu, le monde ne saurait que penser de toi. Question. Les gens peuvent croire tout ce qu'ils veulent sur moi. Je sais au moins ceci. Je ne mérite pas d'être le récipiendaire de l'information donnée ici et dans les autres livres. Je ne me sens pas digne d'être le messager de cette vérité. Je travaille à ce troisième livre, mais je sais, avant même sa parution, qu'entre tous, à cause des erreurs que j'ai faites et des gestes égoïstes que j'ai commis, je ne suis tout simplement pas digne d'être le messager de cette merveilleuse vérité. Mais cela, c'est peut-être le plus merveilleux message de cette trilogie. Le fait que Dieu ne reste caché aux yeux de personne, mais s'adresse à tout le monde, même aux moins dignes d'entre nous. Car si Dieu me parle, Dieu s'adressera directement au cœur de chaque homme, femme et enfant qui cherche la vérité. Ainsi donc, il y a de l'espoir pour nous tous. Aucun d'entre nous n'est horrible à un point tel que Dieu l'abandonnera, ni si indigne du pardon à un point tel que Dieu se détournera de lui. Réponse. Est-ce bien là ce que tu crois, tout ce que tu viens d'écrire? Question. Oui. Réponse. Alors, ainsi soit-il. Et ainsi en sera-t-il de toi. Mais je te dis ceci. Tu es digne, comme tous les autres. L'indignité est la pire condamnation jamais adressée à la race humaine. Tu as fondé ton sentiment de dignité sur le passé, tandis que je le fonde sur l'avenir. L'avenir, l'avenir, toujours l'avenir. C'est là que se trouve ta vie, non pas dans le passé. C'est là que se trouve ta vérité, non pas dans le passé. Ce que tu as fait n'a aucune importance en comparaison de ce que tu es sur le point de faire. L'étendue de ton erreur est insignifiante par rapport à la façon dont tu es sur le point de créer. Je te pardonne tes erreurs, toutes. Je te pardonne tes passions déplacées, toutes. Je pardonne tes conceptions erronées, tes notions peu judicieuses, tes gestes nuisibles, tes décisions égoïstes, tout. D'autres ne te pardonneront peut-être pas, mais moi si. D'autres ne te déchargeront peut-être pas de ta culpabilité, mais moi si. D'autres ne te laisseront peut-être pas oublier, continuer, devenir quelque chose de neuf, mais moi, si. Car je sais que tu n'es pas ce que tu as été, mais que tu es et seras toujours ce que tu es maintenant. En une minute, un pécheur peut devenir un saint, en une seconde, en un souffle. En vérité, il n'y a pas de pécheur, car on ne peut pécher à l'endroit de personne, encore moins à mon endroit. Voilà pourquoi je dis que je te pardonne. J'utilise cette expression parce que tu sembles la comprendre. En vérité, je ne te pardonne pas et ne te pardonnerai jamais quoi que ce soit. Je n'ai pas à le faire, il n'y a rien à pardonner. Mais je peux te décharger. Et je le fais à présent, maintenant, une fois de plus. Comme je l'ai si souvent fait par le passé, à travers les enseignements de tant d'autres maîtres. Question. Pourquoi ne les avons-nous pas entendus? Pourquoi n'avons-nous pas cru cela, ta plus grande promesse? Réponse. Parce que vous ne pouvez croire en la bonté de Dieu. Alors, ne pensez plus à croire en ma bonté, croyez plutôt en la simple logique. La raison pour laquelle je n'ai pas besoin de vous pardonner est la suivante. Vous ne pouvez ni m'offenser, ni me faire du tort, ni me détruire. Mais vous vous croyez capable de m'offenser, et même de me blesser. Quelle illusion! Quelle magnifique obsession! Vous ne pouvez me blesser ni me faire de tort d'aucune façon, car je suis l'imblessable. Et ce qu'on ne peut blesser ne peut et ne veut blesser personne. Tu comprends? À présent, la logique derrière la vérité selon laquelle je ne condamne pas, ni ne punis, ni n'ai besoin d'exiger un châtiment. Je n'ai aucun besoin, car je n'ai jamais été, et ne pourra jamais être, offensé, ni détruit, ni blessé d'aucune manière. Parce que vous imaginez la destruction, vous exigez la revanche. Parce que vous faites l'expérience de la douleur, vous avez besoin qu'un autre en fasse l'expérience en guise de rétribution. Mais quelle justification peut-on avoir pour infliger de la douleur à un autre? Parce que vous imaginez que quelqu'un vous a infligé une blessure, vous trouvez juste et convenable de lui en infliger une en retour. Ce qui, selon vous, ne doit pas se faire entre humains, vous pouvez le faire, pourvu que vous en ayez la justification. C'est de la folie. Et ce que vous ne voyez pas dans cette folie, c'est que tous les gens qui infligent de la douleur à d'autres tiennent pour acquis qu'ils ont raison de le faire. Chaque geste posé par une personne représente pour celle-ci le geste à poser, compte tenu de ce qu'elle cherche et désire. Et selon votre définition, c'est mal. Mais selon sa définition à elle, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec son modèle du monde, avec ses constructions morales et éthiques, avec ses concepts théologiques ou avec ses décisions, ses choix et ses gestes, mais elle s'accorde à elle et à ses valeurs. Vous affirmez que ces valeurs sont mauvaises, mais qui peut dire que vos valeurs sont bonnes? Seulement vous. Vos valeurs sont bonnes parce que vous prétendez qu'elles le sont. Mais cela pour avoir du sens si vous teniez parole à leurs propos. Mais vous-même changez constamment quant à ce que vous trouvez bon et mauvais. Vous le faites en tant qu'individu et comme société. Ce que votre société trouvait bon il y a seulement quelques décennies, vous le trouvez mauvais aujourd'hui. Ce que vous considériez mauvais dans un passé pas très lointain, vous le trouvez maintenant bon. Qui peut faire la différence? Comment pouvez-vous connaître les joueurs sans carte de pointage? Question. Et pourtant, nous osons condamner parce qu'une autre personne n'a pas respecté nos propres idées changeantes à propos de ce qui est permis ou non. Ouf, nous sommes vraiment quelque chose. Nous ne pouvons même pas garder une notion constante de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas. Réponse. Là n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le fait de changer d'idée sur le bien et le mal. Vous devez transformer ces idées, sinon vous n'évoluerez jamais. Le changement est un produit de l'évolution. Le problème n'est pas que vous ayez changé, ni que vos valeurs aient changé. Plutôt que vous soyez si nombreux à croire, avec insistance, que les valeurs que vous entretenez à présent sont bonnes et parfaites, et que tous les autres devraient y adhérer. Certains d'entre vous sont devenus auto-justificateurs et satisfaits d'eux-mêmes. Accrochez-vous à vos valeurs si cela vous sert. Cramponnez-vous, n'abandonnez pas. Car vos idées du bien et du mal sont vos définitions de qui vous êtes. Mais n'exigez pas que d'autres se définissent selon vos termes. Et ne demeurez pas collé à vos croyances et coutumes actuelles au point d'arrêter le processus même de l'évolution. En réalité, vous ne pourriez pas le faire, même si vous le vouliez, car la vie continue, avec ou sans vous. Rien ne reste identique, et rien ne peut demeurer inchangé. Restez tel quel, c'est ne pas bouger. Et ne pas bouger, c'est mourir. Toute la vie est mouvement. Même les roches sont pleines de mouvement. Tout bouge, tout. Il n'y a rien qui ne soit en mouvement. Par conséquent, en raison même du mouvement, rien n'est pareil d'un instant à l'autre. Rien. Rester pareil, ou chercher à le faire, déroge aux lois de la vie. C'est stupide, car dans cette lutte, la vie gagne toujours. Alors, transformez-vous. Oui, changez vos idées à propos du bien et du mal. Changez vos notions à propos de ceci et de cela. Altérez vos structures, vos constructions, vos modèles, vos théories. Laissez se modifier vos vérités les plus profondes. Modifiez-les vous-même pour l'amour de Dieu. Littéralement, modifiez-les vous-même pour l'amour de Dieu. Car l'idée nouvelle que vous vous faites de qui vous êtes, voilà la direction dans laquelle il faut évoluer. L'idée nouvelle que vous vous faites de ce qui est, voilà où l'évolution s'accélère. L'idée nouvelle que vous vous faites de c'est qui, quoi, où, comment, quand et pourquoi, voilà où le mystère se résout, où l'intrigue se dénoue, où l'histoire finit. Alors, vous pourrez commencer une nouvelle histoire plus grandiose. L'idée nouvelle que vous vous faites à propos de tout cela, voilà où se trouve la passion et la création, où Dieu en vous se manifeste et se réalise pleinement. Même si vous croyez que les choses ont été bonnes, elles peuvent être meilleures. Même si vous croyez que vos théologies, vos idéologies, vos cosmologies sont merveilleuses, elles peuvent se remplir de merveilles encore plus grandes. Car il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en ont rêvé vos philosophes. Par conséquent, soyez ouverts. Soyez ouverts. N'enfermez pas la possibilité d'une vérité nouvelle parce que jusqu'ici, vous avez été à l'aise avec une vérité ancienne. La vie commence à la limite de votre zone de confort. Mais ne vous empressez pas de juger les autres. Cherchez plutôt à éviter les jugements, car ce qui est mal pour un autre, c'est ce qui était bien pour vous hier. Les erreurs d'un autre individu sont vos propres gestes passés, à présent corrigés. Les choix et décisions d'une autre personne sont aussi blessants et nuisibles, aussi égoïstes et impardonnables que l'ont été un grand nombre des vôtres. C'est lorsque vous ne pouvez tout simplement pas imaginer comment une autre personne a pu faire une telle chose, que vous avez oublié d'où vous venez et où vous allez tous les deux. Et à ceux d'entre vous qui se croient méchants, indignes et incurables, je dis ceci. Aucun d'entre vous n'est perdu à jamais, et aucun ne le sera jamais, car vous êtes tous, tous, dans le processus du devenir. Vous êtes tous, tous, en train de traverser l'expérience de l'évolution. C'est ce que je fais par votre intermédiaire.